travaille au Cachin oriental. J'ai réfléchi totalement cette
histoire. Moi, c'est l'une de nos compagnies au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'acquis de mépris suivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et partage aux citoyens sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le 5 mars dernier, le chef de l'État congolais a lancé officiellement la récolte de maïs au parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Bandundu. Cette récolte s'est effectuée sur près de 5000 hectares de champs de maïs cultivés sur ce site, soit une production de 4 tonnes par hectare, ce qui donne au total une production de 20 000 tonnes de maïs récoltées. Selon certaines analyses économiques, le besoin en maïs pour l'ensemble de la population serait estimé à près de 500 000 tonnes. Alors, comment améliorer la production des maïs à travers le pays pour répondre à ce besoin? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-893-15 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous accompagner tout au long de cet échange et partage citoyen. Sylvain Matundu assure la mise en onde de ce programme. Julie Feza Bongonda réalise cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons en ligne, avant d'ouvrir les standards pour accueillir les avis et considérations des uns et des autres par rapport à cette thématique, professeur Jean Dédieu Minengo, qui est expert en environnement et professeur à l'Université de Kinshasa, Faculté des Sciences. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Roger. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce projet de Bukangalonzo, si vous avez un regard par rapport à ça?
Oui, Roger. Bon, nous l'avions appris à travers le métier, à travers la radio, c'est la production, c'est bien l'état de maïs, c'est pas de et c'est de 4% de ça. Donc, pour les 6000 hectares récoltés, ce qui nous ramène à une production totale de 20 000. Donc, ce qui veut dire qu'avec ça, on ne peut pas arriver à cibler le problème de besoin en maïs au niveau de la ville de Kinshasa. Donc, il faut d'autres sources d'approvisionnement pour qu'on soit capable de nourrir ou de satisfaire à 100% les besoins en maïs pour la fête du
jour. Oui, mais Jean Dédieu, vous, je sais que vous intervenez à partir des cuites, là où vous assurez des charges horaires. C'est vrai, il y a un problème sérieux avec votre ligne. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre position. Ou bien là où vous êtes, je ne sais pas, vous êtes dans une salle de classe, dans une salle de cours ou peut-être à l'extérieur?
Je suis à l'extérieur, Gia.
Bon voilà, allez-y, je crois que ça pourrait s'améliorer au fur et à mesure.
Oui.
Voilà, Jean Dédieu?
Je vous écoute, Gia.
Allez-y, vous parlez tout à l'heure de votre regard par rapport à ce projet?
Oui, je dis que en fait, nous avions appris que la production de maïs au niveau du parc agro-industriel était autour des 4 tonnes par hectare, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas tellement se tromper par rapport aux chiffres. Hein. Donc, pour réaliser 4 tonnes de maïs par hectare, le coût sur le plan environnemental il est important et le coût en termes d'investissement des machines et des moyens sont également importants. Donc, il faut savoir évaluer pas seulement la production brute comme ça, 4 tonnes de maïs par hectare, mais il faut aussi prendre un peu de temps, un peu de recul pour réfléchir sur ce que l'environnement terre pour réaliser 4 tonnes de maïs à l'hectare. Alors voilà, moi, le retard qu'ils sont en train de faire par rapport à ce que les médias essaient de nous donner comme information.
Alors le souci, comme je l'ai dit tantôt, selon certaines analyses économiques, les besoins en maïs pour l'ensemble de la population seraient estimés à près de 500 000 tonnes. Alors ceux qui sont passionnés des calculs, les férus de calcul, se retrouvent là devant, en fait, devant une situation, c'est-à-dire ils peuvent d'emblée, en tout cas à première vue, pensait déjà à un déficit. Mais on sait qu'on n'a pas de chiffres exacts aujourd'hui par rapport à la production nationale en maïs. mais on sait tout de même qu'aujourd'hui les besoins est énorme et que Bukangalonde tout seul ne peut pas répondre à ces besoins. Alors pour vous, comment on peut faire? Quels sont les préalables pour améliorer la production de maïs à travers le pays pour répondre à ces besoins?
Oui, je pense qu'on ne peut pas vraiment penser qu'avec les terres parcs agro-industrielles de Bukangalonde, même si on en construisait 10 ou 15, et que ces parcs soient capables de produire des quantités importantes de maïs pour nourrir l'ensemble de la population congolaise. Comme nous l'avions déjà dit hier, il n'y a pas un problème de producteurs agricoles dans la République démocratique du Congo. Les producteurs existent, les agriculteurs existent. Nous avons 70% de personnes qui vivent de l'agriculture. Donc si nous voulons arriver à répondre aux besoins à maïs pour l'ensemble de notre pays, le gouvernement congolais, les gouvernements au niveau des provinces, les entités, les partenaires de la République démocratique du Congo, doivent fournir les efforts pour aider les agriculteurs à améliorer leur système de production. Mais je crois qu'à travers le parc agro-industriel, on ne peut pas arriver à répondre aux besoins à maïs.
Et qu'est-ce que vous entendez par améliorer le système de production?
Oui, quand je parle d'améliorer...
Vous avez passé de la mécanisation à l'industrialisation?
Non, pas d'abord. Il ne faut pas mettre la charrue avant le blé. Aujourd'hui, nous avons appris que voilà, on a mis en place une usine pour la production de la farine de maïs. Mais lorsqu'on met une usine pour la production de la farine de maïs, ça c'est très bon. Mais il faut mettre les systèmes de production. D'où viendra le maïs que votre usine doit finalement utiliser pour pouvoir produire de la farine? Donc ça, c'est mettre un peu la charrue avant le blé. Pour moi, avant de parler de la transformation, avant de parler de l'industrialisation, il faut qu'il ait d'abord la matière première que l'industrie doit utiliser. Et la matière première,
c'est
de la production. Donc, il faut, quand je parle de système de production, c'est là, il faut aider les agriculteurs à faire face aux enjeux du changement climatique. Il faut aider les agriculteurs à avoir des bonnes semences. Il faut aider les agriculteurs à avoir les intrants nécessaires pour réaliser la production agricole. C'est ça qu'il faut absolument faire. Mais si on pense à travers des initiatives comme nous sommes en train de le faire de gauche à droite, à travers les provinces, etc., nous pouvons arriver à régler le problème de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Je crois que hier, nous risquons de prendre suffisamment beaucoup de temps avant que nous puissions atteindre l'objectif.
Oui,
donc, il faut fournir beaucoup d'efforts pour aider les agriculteurs avant de penser à la transformation, avant de penser à autre chose. Il faut réhabiliter les routes de déchets agricoles, c'est tout ce qui est important. Pour l'instant, je crois qu'il n'est pas question d'abord de la transformation, il est question d'améliorer la base de la production agricole en République démocratique.
Voilà, donc pour vous, la condition sine qua non, c'est améliorer la base de la production, la base du système de production qui passe notamment par, au fait, donner l'occasion à tous ces paysans d'avoir accès aux intrants, aux semences améliorées pour arriver finalement à produire assez et répondre réellement à ces besoins. Merci beaucoup, professeur Jean Dédieu Minengo. Vous êtes expert en environnement et professeur à l'Université de Kinshasa. Nous vous gardons en ligne. Il est temps pour nous d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui vont faire le débat avec vous. Et je crois que les autres qui nous ont déposé leur message, nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour leur dire merci. Il y a Thomas Amasikini Awekwe de Gemena, John Odian de Butembo, Shukumuigwa de Lubumbashi, Rigen Sangwe de Lubumbashi, Ismaël Baraimou de Lubumbashi, Babacar Diallo, Trésor Azita de Kolwezi, Patrick Mukendi, Possien Misenga, Cédric Moussongo de Chikapa, Luc Moussondoli, Trésor Aziza, Elvis Elisa Nyanzeli, Jirbo Bisengo, Fabrice Piana. Nous allons découvrir vos messages dans un instant, mais il est temps pour nous d'accueillir d'abord Maître Fonville qui est à Lubumbashi et Omar qui est à Kinshasa. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville. Maître Sonville, vous êtes à
Lubumbashi.
Voilà, allez-y, Maître Sonville.
Oui, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, est-ce que l'initiative a été bonne vis-à-vis de l'État de doter la province de Bandundu d'un centre agricole industrialisé, mécanisé? On parle de nom de Bukangalonde. J'estime que si le rendement est faible par rapport au besoin de la population de 100 000 tonnes, puisqu'il est sur Bukangalonde. Pour pallier à cette difficulté, il faudrait qu'on puisse relancer et habiliter le service national qui a été institué par M. Laurent Désiré Kabila, puisque les résultats ont été effectifs au niveau des cas de Katanga, au niveau de la frontière entre Kassai et Katanga. Bah, ça dégage. Les résultats étaient en tout cas effectifs. Nous avons vu que le Kassai est presque tous les Katanga. Il a dit cela pourquoi, M. Gilles. Le Katanga, ce n'est pas autrement 90% de la Zambie agricole en matière de farine de maïs. Or, le pays Congo a la dimension d'un continent dont toutes les provinces sont riches en terres rares. Je ne vois pas pourquoi on peut recourir à une tâche. Alors, ce qui est là, c'est quoi? Il faut seulement capitaliser.
Voilà, décidément, on a des petits soucis. Décidément, on a des petits soucis avec votre ligne depuis hier, Maître Sauville. Vous nous appelez, il y a comme une perturbation au niveau du réseau. On ne sait pas réellement saisir vos propos. Je ne sais pas si peut-être vous pouvez changer de position. Comme ça, on peut prendre juste même la fin de votre intervention. Maître Sauville? Voilà. Non. En tout cas, ça se détériore davantage. Donc, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible en onde par respect des auditeurs. Merci beaucoup, Maître Sonville. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Maître Omar, vous avez la parole. Vous avez suivi notre invité qui a évoqué certains préalables par lesquels passe, au fait, le succès de ce projet, notamment l'encadrement des paysans qui, en fait, travaillent déjà dans le secteur depuis très longtemps, dans le secteur de production, voulais-je dire. Aujourd'hui, ces paysans font face à plusieurs problèmes, notamment le manque d'intrants et aussi des semences. Bref, l'encadrement n'est pas vraiment de qualité. Si jamais on améliorait ces systèmes de production, ça pourrait donner les résultats et on pourrait, d'une manière ou d'une autre, répondre à ces besoins qui, aujourd'hui, est estimé à près de 500 000 tonnes, selon certaines analyses économiques. Alors, avec 20 000 tonnes de maïs récoltées déjà à Bukangalonzo, c'est vrai que c'est un pas parce que le projet c'est un processus, mais de cas redoutent que cela ne puisse pas réellement résoudre le problème de besoin en maïs en République démocratique du Congo. Maître Omar.
Merci beaucoup, Gio. Très heureux de me remettre de nouveau dans les ondes de ma radio préférée. Je voudrais vous dire merci pour le verbe et je voudrais faire mienne les interventions pertinentes de l'invité qui est le professeur. Mais avant tout, dès les mineurs de ma cogitation, je voudrais hier féliciter les chefs de l'État, nombreux ne l'ont pas fait, parce que ce n'est pas facile d'initier de tels projets pour lutter contre la famine. Mais il faudra par ailleurs signaler à tous les Congolais que cela n'est pas une faveur. C'est un droit reconnu à tout citoyen d'avoir une bonne alimentation et un devoir pour les gouvernants. Comme l'invité l'a dit, cela n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, parce que, avec l'immensité du pays continent qu'est le Congo, je doute fort que le parc agro-industriel, avec sa première récolte, puisse résorber les problèmes de l'alimentation. Et moi, je pense qu'il y a un écart, comme vous l'avez constaté, entre la production ainsi que le besoin éprouvé par la population. À mon avis, hier, la première cause serait la faible de production. Moi, je pense que le parc agro-industriel de Bukangalonzo ne suffit pas à lui seul à résoudre ces grands problèmes que nous avons avec ces grands pays avec un nombre élevé d'habitants. De deux, il y a un problème sérieux juillet des manques de financement de petites et moyennes entreprises agricoles. À part l'État qui crée des parcs, il y a beaucoup d'agriculteurs congolais qui récoltent le maïs, mais faute de moyens, avec la surtaxation, ils n'arrivent pas à le mettre en circulation. Et enfin, il y a un problème de suivi juillet de ce qu'ils produisent. À part le parc Bukangalonzo, nous avons aussi la réserve stratégique qui existe. Qu'est-ce que le Congolais gagne des récoltes de cette réserve stratégique nationale? À part la réserve, nous avons un parc qui a été inauguré par le gouverneur Moïse Katumbi. Quelles sont les retombées de ces différents parcs? Donc il y a un manque de politiques agricoles ainsi qu'un manque de contrôle efficace de ce qui est produit et les parcs industriels nationaux ainsi que ce qui est produit le privé. Alors, la question principale c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons proposer pour qu'on puisse un peu redorer les besoins thermiques du secteur agricole. Moi, je pense, comme l'a dit l'invité, il faudra élargir les situations agricoles. Nous, c'est un avis lorsqu'il était au pouvoir avec le service national. Moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter à un seul parc. Il faudra, je propose, au moins dans chaque province, créer des parcs et les alimenter vivement. Aussi, il faudra revitaliser les parcs déjà existants. Nous avons le Daipen, le parc du Bangonville, le parc du Katanga. Il faudra revitaliser cela pour que chaque province puisse avoir son parc et que chaque population de cette province puisse se retrouver. De deux, il faudra renforcer les mécanismes des contrats de suivi. Pourquoi est-ce que je l'ai dit, Julien? À part le parc Bukangalo, nous avons d'autres parcs que l'État finance, mais nous ne savons pas voir les retombées de ces récoltes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle approprié de savoir combien avez-vous produit, combien avez-vous vendu. Donc il faut là renforcer avec le mécanisme des contrôles appropriés pour voir. Et enfin, comme l'a dit l'invité, à part l'État qui crée des parcs, qui fait le commerce, qui fait l'agriculture, il y a aussi des particuliers. Faites un tour ici à Maluku, au plateau, vous allez voir combien de tonnes de maïs sont produites. Mais pourquoi cela n'arrive pas à résorber les problèmes de l'alimentation au Congo? C'est parce qu'il y a d'abord, un, les taxes sont surélevées, deux, manque des outils appropriés pour le faire de façon la plus normalisée. Moi, je pense que hier, cela n'est pas difficile. Comme le disait René Descartes, la volonté est la pièce maîtresse de la conscience. C'est par elle qu'on peut transformer le monde. Oui, et de la part des gouvernants, oui, et de la part des agriculteurs, il suffit d'un minimum de volonté. Je pense que l'agriculture
Oui, Maître Omar, juste une question de curiosité. Aujourd'hui, c'est vrai que quand nous lisons les SRP 1 ou 2, en tout cas les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté aujourd'hui, qui met également un accent sur plusieurs stratégies à opérer pour arriver à relancer l'agriculture, je crois que là, on ne peut pas parler de manque de politique, de bonne politique agricole dans notre pays. Les textes sont clairs et il y a pas mal de stratégies qui ont été déjà proposées par ces deux documents, en tout cas le premier et le deuxième qui a été révisé, voilà, donc révisité. Aujourd'hui, il ne reste que l'application. Est-ce que vous partagez d'avis que si jamais on mettait en pratique toutes les stratégies proposées par le DCRP 1 ou 2, nous pouvons arriver quand même au résultat au lieu d'aller d'une manière un peu vite.
Merci J.R., vous avez raison, je l'ai même souligné lorsque j'ai proposé, il y a un problème de manque de volonté politique parce que l'argent existe, mais on ne sait pas les débloquer. Mais lorsque je parle de manque de politique, la politique par essence signifie l'art de gérer. Et la politique ne se limite pas à avoir des stratégies, mais elle se limite aussi ou elle consiste également à mettre en place ce qui a été décidé. Elle consiste également à mettre en place des mécanismes pour exécuter ce qui a été décidé. Lorsqu'on se limite à faire un chapelet de bonnes intentions, à proposer des solutions idoines, mais on ne fait pas un effort d'appui qui a été recommandé, il y a un manque criant de politique agricole. La politique d'un secteur ne signifie pas faire une feuille de route, mais elle signifie également mettre en place des mécanismes sérieux et les appliquer en vue, n'est-ce pas, d'aboutir à des solutions réelles. Donc, de tout ce résumé, je vous l'avais dit, par la volonté politique, seule la volonté est la base de tout.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa, créé de parc agro-industriel de chaque province. Ça pourrait être une des solutions au regard de ces faibles financements, faibles productions, manque de suivi, et vous avez comparé disons ce projet à d'autres projets existants qui pourraient en fait aider ces pays, ces projets à décoller avec succès. Vous avez évoqué notamment la réserve stratégique, le parc initié par le gouverneur de la ville province la ville de Lubumbashi, également la question liée à la bonne politique ou une feuille de route bien définie pour arriver au résultat. Merci beaucoup, Omar. Rafiki, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes à Boutembo. Bonjour et merci de nous avoir rejoint.
Oui, bonjour. Je suis très intéressé par ce sujet et je suis d'accord que nous avons besoin d'augmenter la production dans notre pays. Mais je comprends, il y a d'autres qui ont parlé des semences et des grains. Oui, c'est vraiment la base. Je pense qu'au-delà de ça, nous avons aussi la part des services techniques de l'État. Vous savez, il y a les services techniques de l'État qui doivent normalement accompagner les agriculteurs partout où ils sont, ce qu'ils soient en mesure de bien appliquer les techniques culturelles. Alors, bien, ces services arrivent à s'approprier les actions des ONG. Il y a des ONG qui interviennent dans la région, mais qui interviennent au bout de certains temps parce que ces projets, après, les ONG repartent. Alors, si le service des pratiques pouvait prendre les choses en main, prendre les taureaux par les cornes, afin que les actions des ONG soient pérennisées, ça serait intéressant. Alors, je vois aussi la redynamisation des centres de recherche ou le renouvellement continuel des semences qui dégénèrent normalement au bout de certains temps. Par exemple, chez nous, il y a une maladie terrible qui est en train de ravager le maïs. C'est une maladie terrible et il faut des chercheurs qui vont voir de quelle origine et comment on peut combattre ça et voir si la possibilité de mettre en place des variétés qui pourraient résister. Et la dernière chose, c'est que moi je vois aussi, parce qu'ailleurs l'agriculture est subventionnée, mais les petits agriculteurs ont difficile à accéder aux petits crédits. Alors si les gouvernements pouvaient aussi mettre en place un mécanisme qui pourra faciliter et à ces petits agriculteurs, à ces petits paysans, d'accéder aux petits financements, ça serait intéressant. Parce que je sais que Bukangalonzo c'est bon, je ne suis pas contre ça, mais je sais que la grande production c'est au niveau des petits paysans. Si on les équipe sur les armes, ils peuvent ouvrir le monde. Voilà tout ce que je commande.
Voilà, donc pour vous, les services de l'État doivent accompagner les différentes ONG qui viennent à l'appui aux paysans. Et puis la question de la redynamisation de différents centres de recherche. Là, vous parlez, je suis sûr, de l'INERA, par exemple, qui a fait quand même son temps à l'époque. L'INERA, avec ses recherches, en fait, a approvisionné les paysans en intrants et aussi en semences à améliorer. Alors, l'agriculture qui n'est pas subventionnée, il faudrait aujourd'hui que l'État puisse définir quand même une bonne politique pour arriver à aider quand même ces paysans qui n'ont pas accès à des grands crédits. Merci beaucoup, Rafiki, d'avoir appelé de Boutembo. Et nous rappelons que vous êtes ingénieur agronome. Maître Mavinga, vous êtes à Matadi. Bonjour, maître.
Oh, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Vous avez la parole. Quels sont les préalables par lesquels on doit passer, en fait, les conditions d'amélioration de la production des maïs à travers le pays pour répondre, en fait, à ces besoins de près de 500 000 tonnes de maïs?
Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais intervenir par rapport à ce thème. Moi, je disais peut-être pourquoi comment on limite les débats au maïs. C'est vrai que la plupart des Congolais ils consomment les maïs. Moi, je trouvais bien qu'on puisse un peu diversifier la production. Chaque fois, je suis là, j'ai pêché le gouvernement de ce qu'ils ont fait, près de 20 000 tonnes de maïs, déjà beaucoup. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse créer aussi des parcs dans d'autres provinces, parce que comme nous, au Bas-Congo, on mange pas peu de maïs, peut-être qu'on prend les riz. Et si on peut arriver à satisfaire le besoin de toute l'étendue territoriale, à diversifier la production. Aussi, il ne faut pas qu'on limite seulement la maïs au niveau des maïs au niveau de la production interne. Vous savez, hier, pas autant qu'on puisse arriver à combler les déficits, mais il faut aussi penser à la production globale ou intensive. C'est là qu'après avoir produit au Congo, pouvoir penser que la production qui est faite au Congo soit exportée à l'État. Et ça sera une manière de pouvoir renflouer les caisses de l'État. Parce que donner aussi des moyens pour que les budgets soient équilibrés. Mais si du moins, on peut arriver non seulement à limiter.
Oui, Maître Mavinga, c'est pourquoi nous avons posé la question plutôt comment améliorer la production. Je crois que tout cela entre en ligne des comptes. Vous améliorez, vous faites suffisamment. Une production suffisante d'abord pour la consommation locale et le reste peut-être le surplus qu'on pourrait une partie verser à la réserve stratégique et une autre peut-être exporter qui pourrait faire de rentrée pour le pays.
C'est pourquoi moi j'ai proposé, ce sera facile si du moins on arrive à diversifier. Je prends exemple, si la quantité qu'on a produite à Bukangalonzo peut suffire pour le pays, aussi pour l'extérieur, si on arrive à diversifier. Si on dit dans le Bas-Congo, on crée un parc agro-industriel, agro-alimentaire pour les riz, vous allez vous rendre compte que le besoin des maïs va réduire. Donc, on pourrait essayer d'équiper au Bas-Congo. Il y a les riz au Kassai, il y a les riz où il y a les pommes de terre. Ça va équilibrer les choses. Vous voyez, donc, il y aura les déficits seront comblés. Il y aura des compensations. Donc, au lieu de pouvoir faire ainsi que toute la population congolaise dépend du maïs, une partie sera produite pour la consommation interne et une autre partie sera voyageuse. C'est pourquoi moi j'ai dit que je propose à ce que le gouvernement mette des moyens que dans des arrière-pays ou dans chacune de province, on peut créer aussi des parcs pour ne pas diversifier. Si au Bandundu on a produit des maïs, au Bandundu on produit des riz et à Goma on produit des pommes de terre, et cela va créer un certain équilibre qui permettra qu'on puisse avoir la production interne équilibrée et faire en sorte que une production puisse être vendue à l'extérieur. Donc, justement, on se limite au maïs, c'est un peu compliqué. On essaie de diversifier les choses. On dit qu'en voie de débat, ce que les amis ont dit, on peut aussi soutenir les producteurs locaux, hein, les petits agriculteurs qui sont dans les petits coins-là. On essaie de leur donner des exemples qui permettent à ceux qu'on puisse couvrir les petits besoins de chacune des constitutions locales et cela permettra à ceux qu'on puisse arriver à la dimension nationale. Moi, je pense qu'il y avait cette petite stratégie. Si on arrive à partir à de petites industries au niveau de chacune des provinces, de petits parcs au niveau de chacun de chacune de province en diversifiant, bien sûr, je précise, et ça permettra la création d'un certain équilibre. Toute la population ne se focalisera pas seulement à une seule fois.
Merci beaucoup, Maître Mavinga. Je ne sais pas si les fermes passent, comme vous l'avez dit, le micro-parc industriel à travers le pays. C'est exactement ce qu'a proposé votre prédécesseur, Omar, qui parlait plutôt de la création de différents parcs industriels à travers les provinces, donc dans chaque province, chacune province. Mais je vous ajoutez qu'il faut tenir compte aussi des réalités. Si au Kasaï, on consomme très, très, très bien, il y a une forte consommation de maïs. Je crois que le problème ne se pose pas en produisant le maïs. Mais vous insistez sur cette notion de diversifier. Il faut diversifier les variétés. Il faut produire plus, non seulement les maïs, mais d'autres produits également, qui pourraient permettre à ce qu'on puisse donner l'occasion à la RDC de pouvoir exporter ces produits. Merci beaucoup. Eric, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Eric.
Bonjour, monsieur Gérard.
Vous avez la parole, Eric. Comment améliorer la production de maïs, notamment, et d'autres produits à travers le pays pour répondre aux besoins qui restent encore énormes?
Allô?
Voilà, Eric, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, je suis là.
Vous avez la parole.
Ok. Ben, merci déjà pour la parole. Et puis, je me rends compte que, jusque-là, je vais déjà rejoindre les intervenants qui sont passés dans leur ligne de réflexion et de raisonnement. Donc la solution à ce problème n'est pas au niveau des doctorats qu'on pourrait avoir ou quoi. Les pistes sont claires. Si Bucaranozo nous donne, d'abord ça fait combien de mois pour qu'il nous sorte 20 000 quelque chose? Vous voyez, il ne suffit que de mettre dans chacune des provinces, comme venait dire Maître qui passait devant moi. Donc je ne peux pas trop revenir là-dessus parce que c'est la même chose que lui a dit ce que je voulais dire. Mais seulement... Remercions le gouvernement d'avoir commencé par poser un acte comme celui-là. Il n'est pas petit. Il n'est pas petit. Il ne faut pas qu'on passe notre temps à rester dans la critique. Allez, moi, je ne suis pas derrière lui. Moi, je veux que ce monsieur quitte le pouvoir, bien sûr. Mais cet acte est positif. Vous voyez, il faut que cet acte, nous le gardions pour nous, le peuple congolais. Nous voyons la portée de cette action politique ou bien cette action gouvernementale. Pour l'avenir, pour la postérité, pour nous-mêmes, c'est déjà qu'on est en train d'entrer dans le premier ça. Il y a un débat au niveau du Parlement où il faut qu'on harmonise comment est-ce qu'on va entrer dans ce grand marché. Ben voilà. Donc, il faudrait à mon sens, que déjà, à partir des politiques qui comprennent, comme venait de le suggérer Maître Mazinga, que je remercie d'ailleurs déjà, qui suggère qu'effectivement, il y a dans chacune des provinces. Maintenant, politiquement, le président a donné un coup de pouce à la province du Bandundu. Merci. C'est aussi une manière de voir. C'est le Bandundu qui se bat trop à son, pour son électorat, pour sa majorité, pour consolider son pouvoir, ainsi de suite. Mais la province qui est juste au nord, là, la province qui, depuis qu'il est président, il n'y pense pas. Ben voilà, s'il pouvait même aller là-bas. Histoire de se dire, bon, là-bas, ça sera
possible. Oui, Eric, je crois que c'est la politique du gouvernement. Le gouvernement, en tout cas, tous les gouvernements qui nous ont succédé, nous partons même depuis qu'on a commencé la démocratisation de ce pays le 24 avril 1990. Nous avons vu des feuilles de route qui ont été bien élaborées et bien définies pour la relance de l'agriculture en République démocratique du Congo, jusqu'à ce que, avec les partenaires traditionnels, notamment la Banque mondiale, le FMI et tant d'autres organismes internationaux, on est arrivé à élaborer ce que nous avons appelé les documents stratégiques, la lutte contre la réduction de la pauvreté. Voilà, alors, SRP 1 et 2. Voilà. Dans ces documents, il est clairement défini des stratégies pour arriver à relancer l'agriculture. Il ne reste qu'aujourd'hui l'application qui souffre encore, n'est-ce pas? Alors, donc, comme pour dire, le problème, il est réel, il est connu, l'état des lieux est connu, mais maintenant, comment faire pour vous? En tout cas, quels doivent être les préalables prioritaires?
Oui, merci Gérard. Gérard, c'est ce que j'aimerais renchérir. Donc, toutes les solutions qu'on pourra chercher à trouver, la première des actions à mener, c'est celle que l'homme mènera. Alors, est-ce que c'est axé sur l'homme qui va travailler dans ses champs? Maître Patrick va donner un exemple ici. Les productions pour le riz, par exemple, ceux qui mangent le riz, qui consomment plus de riz, sont au niveau du
maniement,
vers l'est. Vous comprenez? Et alors, c'est l'homme qui va travailler. Il y a un monsieur qui passait avant, un maître qui était à Lumbashi, qui a dit qu'il fallait donner des microcrédits, ainsi de suite. Mais voilà. Maintenant, au lieu de donner des microcrédits pour que ça fasse encore une dépense excessive au niveau des BCECO et de tous les partenaires traditionnels, selon vos propos, moi, j'aime pas trop ces trucs de partenaires traditionnels. Pour moi, je pense que le partenaire traditionnel pour le Congolais, c'est moi-même le Congolais. Vous voyez? Parce qu'il s'agit de moi. Mais déjà maintenant, nous sommes en train de parler de ce grand pays qu'on appelle partout grenier. Mais un grenier, vous vous rendez compte? Donc nous avons une capacité qui est grande. C'est l'histoire de Bucaramanga, c'est un premier pas. On va dire merci. La manière d'amplifier ce pas maintenant, c'est quoi? Pour moi, ma petite contribution serait au niveau où le gouvernement doit se dire, il faut qu'il arrête de nous faire du matraquage publicitaire sur même une petite action qu'ils ont menée. Parce que ça risque de frustrer.
Non, mais Eric, c'est contradictoire, oui, vos propos, parce que vous venez de dire tout à l'heure, au canal, ce n'est pas ceci. Voilà, donc ça pourrait peut-être nous désorienter aussi, parce que vous avez commencé par dire que ce n'est pas petit, mais maintenant, vous dites encore.
Écoutez-moi, je suis en train de parler de publicité. Je suis en train de dire au niveau de la publicité. La publicité qu'ils ont faite sur ce projet, le premier pas qu'ils ont fait, ils en ont fait deux trop. Vous comprenez? Parce que si on n'avait pas fait deux trop, on ne serait pas en train de débattre. Vous comprenez? Alors qu'ils commencent par travailler, qu'ils travaillent, et les échos viendront. Quand les échos viendront, en ce moment, nous serons censés aller vers eux pour demander, mais comment vous faites ces choses et vous ne nous en parlez pas? C'est eux qui sortiront le plus grand dans cette histoire. Vous comprenez? Au lieu qu'on vienne tout le temps leur taper sur la tête, ça risque de les...
Alors concrètement, Eric, vous proposez quoi?
Qu'ils continuent dans la lancée, mais qu'ils anticipent. Vous comprenez? Voilà.
Est-ce que vous partagez l'avis avec notre invité qui disait tout à l'heure?
Non, je ne partage pas l'avis du professeur, parce que le professeur, il est resté très technique. Il a voulu vous montrer qu'il est professeur. Professeur, s'il vous plaît, donnez-nous vos appréciations en tant que Congolais. Si vous allez, vous voulez nous faire des théories d'université, ça va toujours pas rentrer dans la thèse.
Il nous a montré que on peut bon multiplier, par exemple, 10-15 du Kangalunzo, c'est-à-dire si nous avons 20 000 tonnes par trimestre, c'est-à-dire ça ferait en tout cas 200 000, on n'atteindra pas toujours le chiffre de 500 000.
Mais moi, je suis d'accord avec vous. Le professeur, moi, ce que je demande au professeur, c'est quoi? Il vient nous donner la... C'est un expert en termes de solutions pratiques. L'agriculture, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est difficile. C'est pas difficile. Lui, l'expert en ça, il est professeur, qui nous donne des pratiques, vous comprenez? Ça sera pour que ça soit simple, comme tous les exemples que nous lui donner. C'est lui qui vient nous lâcher. Celui d'ici et moi-même. Donc, je peux m'arrêter là pour les...
Merci d'être gentil et d'avoir pensé aux autres qui vont suivre après. Docteur Richard, qui est à Kinshasa également. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à notre invité, le professeur.
Alors docteur Richard, pour vous, comment on peut améliorer la production, notamment des maïs, ainsi que d'autres produits à travers le pays, vu qu'on est pratiquement à un déficit, pour répondre aux besoins de la population?
Oui, je trouve que il est dangereux de regarder le maïs et de booster seulement sa production pour résoudre le problème de l'alimentation en RDC.
C'est juste pour dire que nous sommes partis par là, parce que c'est l'actualité.
Oui.
Et maintenant, on peut prendre le débat même avec d'autres produits aussi, parce que la production, on essaie...
Oui, je suis en train de parler. C'est parce que nous sommes dans une société, malgré 54 ans de l'indépendance, malgré nos diplômes, et malgré tout ça, nous avons une alimentation ethnico-tribale. Il faut qu'on diversifie, qu'on sorte de cette prison. Qu'est-ce qu'on fait des ignames? Qu'est-ce qu'on fait de taro? Qu'est-ce qu'on fait de millet et de sorgho? C'est ça le grand problème. Alors, si on sort de ça, si on donne aux paysans des parcs de pour qu'ils puissent s'approvisionner en outils, vous savez que nos congolaises sont plus dangereuses que les houes des Chinois. Les Chinois travaillent facilement en position verticale, avec le hou. C'est ce que nous devons copier. Il faut aussi qu'on produise par petits hectares. Il ne faut pas des grands hectares aux Congolais. Mais alors, maintenant le grand problème c'est quoi? Est-ce que le parc de Bukangalonzo nous assure la santé et une un environnement qui n'est pas détruit lorsque nous savons que l'épandage des pesticides et des engrais se fait par avion. C'est ça le problème. J'ai référé plusieurs journalistes à une émission qu'ils avaient suivie, une radio qui peut faire la rediffusion pour qu'on regarde un peu qu'est-ce que les engrais et les pesticides donnent à la population. Et dans cette émission qu'on peut rediffuser,
on a démontré
même que les enfants de 14-15 ans ont aujourd'hui des cancers de prostate.
Oui, docteur Richard, le problème...
Qu'est-ce qu'on nous réserve derrière ça?
S'il vous plaît, docteur Richard, c'est vrai, la question relative à l'impact environnemental, ce n'est pas la question à l'ordre du jour. Je crois que nous allons y revenir très prochainement. S'il y a vraiment cet impact, c'est d'ailleurs, je crois que le professeur qui est notre invité pourrait nous éclairer dans les jours à venir. Mais restons d'abord dans le sujet. Selon vous, quels sont les préalables pour améliorer la production?
Le préalable, c'est qu'on parle positivement de l'agriculture. Ça, c'est un. Parce que le Congolais n'aime pas ça. Deuxièmement, que l'on mette les moyens, c'est-à-dire les crédits. Moi, je suis agriculteur, je vous le dis. Quand vous voulez aller chercher les crédits chez ceux qui disent c'est de la paperasse qu'on remplit pas même pendant un an. Deuxièmement, que l'État puisse libérer l'argent des autres. Où est parti notre argent de pêche internationale? Nous avons à peu près 3 000 $.
Voilà, il faut encore, docteur Richard, voilà. ne faisons pas l'amalgame.
Comment vous pouvez demander à un boiteux?
Voilà, donc j'ai l'idée de l'amalgame, d'autant plus que DESH International, nous avons eu à traiter ces sujets par plusieurs fois dans cette émission. Docteur Richard, nous laissons la place à la justice faire son travail. Nous n'allons pas nous placer, disons, prendre la place de la justice pour résoudre les problèmes des épargnants qui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sont lésés parce qu'ils ne rentrent pas dans leurs droits. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé et surtout d'avoir participé pour nous parler un peu de l'impact environnemental de ce projet de parc agro-industriel. Notre invité est mieux placé, mais ce n'est pas la question à l'ordre du jour. Je crois qu'on ouvrira une petite brèche, et puis, bon, une parenthèse rapidement, et puis on la fermera. Merci beaucoup. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et partage citoyen se poursuit avec vous, professeur Jean Desdieu Milingo, expert en environnement et professeur à l'université de Kinshasa, faculté des sciences. Vous êtes avec nous, professeur Milingo, Jean Desdieu?
Oui, je vous écoute.
Voilà, vous avez suivi cette série des auditeurs. Il y a, c'est vrai, les avis sont partagés. Il y a le rapidement qui est beaucoup plus sûr. L'accompagnement des services de l'État, qui devait en principe accompagner les différentes ONG qui viennent en appui aux paysans, et puis la redynamisation de différents centres de recherche qui, au fait, par rapport au temps passé, encadraient les paysans pour arriver à avoir une bonne production. Et aujourd'hui, la question également sur la subvention. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Oui, merci, JR. Je salue d'abord tous les intervenants. Il y a notre ami Omar qui a dit de très bonnes choses. Hein. Il a pris la partie de l'éducation. Et il dit qu'il faut créer des micro-parcs à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et les autres intervenants sont revenus pratiquement sur la même recommandation. Mais JR, comme nous l'avions dit la fois dernière, on peut arriver à créer des différents parcs agro-industriels à travers tout le territoire de la République démocratique du Congo. Ce qui serait une très bonne chose. Mais JR, faites attention, la création de parcs, la production de maïs, pour la production de l'arachide, pour la production de manioc, à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ce que les agriculteurs vont devenir si l'État lui-même commence à produire ça. Nous sommes pour la création de parcs agro-industriels à travers tous les territoires de la République démocratique. Ça, on l'avait déjà proposé.
mais pas des parcs qui doivent être là pour produire des denrées alimentaires. Vous êtes dans la province du Bas-Congo, vous êtes au niveau de Mbangangu. On peut installer un petit parc à Bouyangui. D'ailleurs, je salue notre ami Omar qui a dit le développement d'un pays par la promotion des petites et moyennes entreprises. J'ai les études sont en train de démontrer clairement des grandes entreprises et des grands parcs comme ça. Dans la durée, ces histoires ne sont pas rentables. C'est vrai que vous avez parlé de la quantité de maïs qui vient d'être produit au niveau du parc agro-industriel. Ça, c'est en termes de quantité, mais c'est rentable dans ces conditions-là. La question de la rentabilité se pose. En dehors de la rentabilité, il y a Richard qui a parlé. Je sais que vous avez dit que c'était hors sujet, mais c'était dans le sujet. Mm-hmm. Déjà dit quel est le coût environnemental de cette production. Ils prennent les avions qui épandent les pesticides, lorsqu'ils utilisent les engrais organiques, deviendra ce sol dans 10, 15 ans. Ça, c'est très important. Ce sont des questions auxquelles il ne faut pas, il faut répondre. Et il ne faut pas dire, voilà, il y a telle production et des choses avancent. Donc, on peut arriver à créer des parcs agro-industriels à travers tout le territoire de la République démocratique du Congo. Mais les parcs qui doivent être là, et je l'ai dit, pour produire des intrants, et des parcs qui doivent être là pour transformer les produits agricoles au niveau local. Vous êtes en train de compter les vies. Les gens produisent des quantités importantes de tomates hier. Il faut arriver là-bas.
Mm-hmm.
Mais ces tomates, et c'est pas que ceux qui ont la possibilité d'amener ça à ce cas-là, vous allez voir comment les tomates sont en train de pourrir au niveau des Gambela, au niveau des grands marchés. Mais si à travers la création de parcs agro-industriels, on peut créer des petites unités de transformation décentralisée de produits agricoles, qui s'entraînerait le développement social. Et je suis très content de cette idée. Les parcs ne doivent pas utiliser de la même manière quand on est au Bas-Congo, quand on est à Kinshasa, on est au Bandundu. Non, ça doit être spécifique à chaque territoire, spécifique à chaque province. Vous êtes à Goma, par exemple, vous pouvez créer un parc qui va arriver à la production de la pomme de terre, des parcs qui sera capable de pouvoir produire, par exemple, des frites avec des pommes de terre. Ça sera très intéressant. Donc, plus parc pour produire des denrées alimentaires, et ça deviendra lui-même concurrent des agriculteurs, et ces gens-là vont abandonner.
Donc, c'est ça le danger.
L'activité, elle est populaire. C'est bien que vous avez parlé de la production au niveau des pantalons. C'est très bien, j'ai dit, nous sommes ça. Mais nous sommes dans une démarche scientifique, nous sommes dans une démarche sociale. Notre problème n'est pas de dire oui, c'est bien fait ou ce n'est pas fait. Notre problème, c'est de mener une réflexion sérieuse pour que la République démocratique du Congo.
Oui, mais dans cette réflexion, professeur Jean des Dieux, professeur Minengo Jean des Dieux, il y a une certaine opinion qui pense que c'est juste un tempo que l'État a donné. Il a donné qu'un tempo, un départ. Je crois que la suite, comme on l'a dit, on s'inscrit sur une durée et c'est tout un processus, quoi. Donc les résultats pourraient être plus probants.
Oui, je crois que le service national avait commencé comme départ agro-industriel, les réseaux stratégiques générales avaient commencé comme départ agro-industriel, nous connaissons tous les résultats. Le problème, le conseil que nous donnons, c'est que si on veut... Et j'ai lu un document du ministère de l'Agriculture, ça c'était très intéressant. Ils ont dit qu'ils ont envie de créer des parcs à travers toutes les provinces de la République démocratique pour émettre une structure au niveau national. Même les parcs qui vont être créés au niveau des provinces ou au niveau du territoire. Hier, il ne serait pas intéressant que l'État soit là en train de gérer ça. Il faut confier ça au secteur privé. L'État n'a pas de temps de faire les choses. L'État n'a pas de temps d'aller récolter le maïs, non.
Ben oui, professeur, on sait tout de même que... Oui, depuis un certain temps, l'État congolais s'est inscrit dans cette logique de vouloir encourager et faire la promotion du partenariat public-privé, le PPP. Donc je crois que là, le problème ne se pose pas. Question qu'il y ait des entrepreneurs, des gens avec la volonté de pouvoir aider le pays à relancer le secteur de l'agriculture, notamment. Donc je crois que le problème ne se pose pas. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de conditionnalité plus grave qui pourrait empêcher les uns et les autres à avoir droit au chapitre.
Oui, c'est très bon. Je pense qu'on dit finalement c'est la même chose. La question fondamentale qu'il faut se poser, si dans les modèles de Bokangalonzo, l'État crée beaucoup de parts comme ça à travers la République démocratique du Congo, pour que les gens donnent la question, qu'est-ce que les agriculteurs vont devenir? Aujourd'hui, on produit par exemple à Bokangalonzo, si la production était meilleure, on arrive autour de 100-200 000 tonnes. Qui va acheter la production des agriculteurs? Et qu'est-ce que ces gens vont-ils devenir?
C'est la grande question. On va prendre Freddy qui est à Camino, Mike à Pandovan, en Italie. Voilà, donc on va prendre Freddy d'abord. Freddy, vous êtes à Camino, au Katanga. Bonjour, Freddy.
Bonjour, comment allez-vous? Merci. Je salue également les nombreux amis qui nous écoutent. Je salue nos frères. le professeur. En fait, la question à l'ordre du jour aujourd'hui est tout à fait intéressante, comme toujours d'ailleurs. Je vous salue pour les sujets que vous avez bien voulu choisir. Eh bien, ma contribution c'est laquelle? Mes frères congolais, soyons quand même positifs. Parc de Bukangalonzo, pourquoi est-ce que cela est mauvais? C'est quand même un grand pas que le gouvernement a fait. On n'a pas dit qu'avec ces parcs on peut réunir, on peut nourrir tous les Congolais. Mais moi, je voudrais d'abord poser la question à l'invité. Est-ce qu'il peut nous dire le nombre de gens qui font réellement l'agriculture dans notre pays? Moi, je pense que nous devons d'abord pratiquer l'agriculture. Au Congo, nous avons pratiquement toutes les possibilités. On dit même que le Congo peut nourrir l'Afrique. Nous sommes dans un pays qui sort des guerres, dans un pays désordonné à un certain moment. Vous connaissez toutes les difficultés que nous avons. Pourquoi est-ce que le Belge avait fouetté nos ancêtres? Pourquoi? Est-ce que les Congolais font l'agriculture? Je vous donne un exemple. Kinshasa, c'est une grande ville qui compte aujourd'hui 12 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez qu'à Kinshasa, on a 2 millions de gens qui travaillent, qui sont dans les bureaux? Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous mettre à critiquer le gouvernement aujourd'hui. Oui, il y a quand même une part du gouvernement. Au village où nous sommes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs ne sont pas encadrés parce qu'en principe, il y a une structure du ministère de l'Agriculture jusqu'au niveau des groupements. Il y a au moins, dans le groupement ici, dans le territoire, il existe quand même de moniteurs. Si on n'a pas d'ingénieurs, mais il y a des moniteurs qui devraient encadrer les paysans qui font l'agriculture. Mais en dehors de cela, je crois aussi que l'État doit faire une certaine part, même si l'État a des difficultés, mais donner des semences, ce n'est pas une mauvaise chose. Commençons d'abord par la houe avant de penser au tracteur et ainsi de suite. Même quand on dit qu'on peut créer d'autres Bukangalonzo, mais vous connaissez le gouvernement, les difficultés du gouvernement congolais, on ne sera pas en mesure d'installer cela dans toute la province aujourd'hui. Ce qu'on a fait là, c'est un pas et c'est un exemple. Que cette partie, qu'on nourrisse une partie de Bandundu, de Kinshasa, moi je pense que c'est un pas. Mais continuons à encourager l'agriculture traditionnelle, qu'on donne des semences, qu'on donne peut-être ce qu'il faut donner, qu'on encadre, que les agronomes qui existent dans les différents milieux puissent encadrer les gens. Je pense que c'est ça ma contribution.
Merci beaucoup Freddy, et c'est ça d'ailleurs la préoccupation de cette émission tout à l'heure, donc quand nous avons posé la question, comment améliorer la production des maïs ou encore d'autres produits à travers les pays pour répondre à différents besoins. Voilà, donc le souci c'est toujours améliorer et d'aller de l'avant. C'est un tempo, comme nous l'avons dit au début, le gouvernement a fait un pas dans ces processus dans lesquels il s'inscrit pour arriver finalement à résoudre le problème de la faim et réduire sensiblement la pauvreté. Été en RDC. Merci beaucoup. Mike, vous êtes à Paindovan, en Italie. Bonjour, Mike.
Bonjour, merci beaucoup, JR. Je pense que je vais contribuer à ce qui concerne, je pense, tout le monde, tous ceux qui m'ont assisté avant, ont presque tout dit. Mais sinon, moi, je suis ici en Italie depuis de cela, il y a de cela 10 ans, donc je sais combien. L'agriculture ici en Italie est prise en considération étant donné que l'Italie était parmi les pays agricoles de l'Europe. C'est comment je pourrais suggérer ceci. Vous voyez, le pays est rempli de richesses agricoles qu'on n'a pas jusqu'à présent cultivées ou qu'on n'a pas jusqu'à présent utilisées. Entre autres, le pape que le gouvernement a fait, je le salue. Non, c'est un pas, c'est comme si c'est un goût d'eau dans l'océan, jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 500 000 de gens, et lui en a produit que 20 000. Si on met en termes de pourcentage, ce n'est que 2% ou 3%. Donc, ce qui montre qu'absolument, c'est dans l'échec. Donc, le bar est en dessous de zéro. Et si on perce le bar en dessous de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Il y a un adage en Lingala qui dit que nous savons que ce qu'on a fait l'humidité. Cela veut dire quoi? Que le gouvernement ne doit pas seulement compter sur lui-même pour nourrir tout le besoin agricole, tout le besoin maïs que la population congolaise a. Et voilà pourquoi il est en train d'aller toujours à l'échec sur ce domaine. Il y a un premier point. Il faut que le gouvernement puisse faciliter les entrepreneurs en ces zones. Par exemple, mon collègue qui a assisté tout à l'heure a dit qu'il faut la sensibilisation des agriculteurs. Il faut aussi ouvrir un guichet unique pour les entrepreneurs communautaires. Et aussi, il faut faciliter le transport de produits vers les endroits où il y en a le plus besoin. Donc, c'est ça la chose. Ici, en Italie, il y a une banque proprement pour les entrepreneurs agricoles. on dit banque agricole. Excusez-moi. Donc, cette banque, l'ENAC pourrait prendre en considération le besoin des entrepreneurs agricoles. Et comme au Congo, nous, on n'a pas à mesure de créer toute une banque qui prendra en charge les entrepreneurs agricoles, comme ça, ils peuvent ouvrir un guichet unique. Qui peut faciliter l'obtention des crédits des agriculteurs, que ce soit dans les provinces où se trouvent, et aussi faciliter les transports de leurs matériaux. Et aussi, il y a un grand problème, mon frère. J'avais contacté une fois un ministre au pays où on avait reçu beaucoup d'Italiens qui voulaient porter leurs produits, pour ne pas dire le matériau, puis descendre, et puis quand le projet de Camacho a commencé, ce qui nous a été demandé, c'était encore beaucoup plus que ce que ces gens ici voulaient investir dans ce domaine de la culture. Donc, je ne peux pas dévaler tout ce qui a été dit, parce que c'est vraiment de la honte. Moi qui a fait de propagande ici, disant que vous pouvez prendre tous les matériaux qu'il faut pour aller faire le champ ou encore
investir dans l'agriculture.
Dans le domaine agricole, j'ai été déçu par le rapport que ces gens ont reçu après avoir été en contact avec les gens même du gouvernement en place. Et eux croient que le peu de moyens que le gouvernement peut faire et tout ce qu'il a produit à Bukamalondo, ça ne fait que montrer jusqu'à combien ils sont faibles. Je ne suis pas en train de m'attaquer au gouvernement, je suis en train de m'attaquer à la production qu'ils ont produite. C'est pour dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas nourrir toute une nation qui constitue environ 80 millions d'habitants. Donc il faut toujours faciliter aussi les autres. Il y a d'autres agriculteurs qui sont, je ne sais pas, le Quater, qui sont au Kassai, à Bandundu, le pomme qui sont produits à l'est du Congo, qui n'arrivent même pas à Kinshasa. Et une fois arrivé à Kinshasa, ça devient bien fait plus cher que ce qui est à l'est. Donc c'est comme ça. S'il y a la facilité des produits, il y a aussi la facilité des matériaux de agricoles, je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de l'abondance agricole dans le pays. Et c'est ça ce que le gouvernement doit prendre en charge. Ce n'est pas construire, je ne sais pas, ce n'est pas sur un champ, je peux dire, privé, qui produit 20 000 tonnes pour un besoin de 500 000 tonnes. Vraiment, pour moi, c'est vraiment insuffisant. Merci beaucoup,
Mike. Vous avez évoqué là le problème de facilitation d'investissement. Donc, il faudrait que l'État encourage les entrepreneurs, les Congolais, pourquoi pas, et tant d'autres qui aimeraient bien investir dans les secteurs agricoles. Vous avez cité une expérience malheureuse que vous avez faite avec des investisseurs italiens que vous aviez voulu orienter au pays pour qu'ils puissent investir suffisamment dans ce secteur. Bon, dommage qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont pratiquement découragé, que vous avez en tout cas décrié dans cette émission. Merci beaucoup, Mike, d'avoir appelé de Van der Weyen en Italie. Italie qui est aujourd'hui considérée parmi les greniers de l'Europe. Voilà, donc, surtout en agriculture, il y a eu pas mal d'avancées. Nous allons prendre Kasongo qui est ingénieur et il est à Lubumbashi. Kasongo, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez?
Nous allons bien, et vous à Lubumbashi?
Oui, nous allons bien. Nous à Lubumbashi, n'est pas que le Congolais, on nous a beaucoup intéressés parce que nous avons déjà vécu cette expérience avec la bonne expérience avec le service national qui a pu prouver de quoi il était capable par une bonne production. Mais nous encourageons aussi le gouvernement, nous le félicitons pour la création de Congolais. Mais par rapport à la production, je crois que c'est vraiment un fiasco, si nous pouvons le dire de cette façon-là. Pourquoi avoir les investissements et les moyens que ce PAC a pu utiliser pour pouvoir produire du maïs sur 5 000 hectares et arriver à un rendement de 4 tonnes hypothétique,
parce que nous en avons l'expérience. Avoir seulement les épis et la vigueur des plantes telles que nous avons vu ça à la télé, je ne pense pas qu'il puisse dépasser 3 tonnes à l'hectare. Alors que localement ici à Lubumbashi, avec les petits fermiers, nous arrivons à une moyenne de 4 tonnes. Les grands fermiers de la trempe du parc de Bangalonzo, ils vous font jusqu'à 8 tonnes à l'hectare, voire certains blocs, ils arrivent à 13 tonnes à l'hectare. Moi, je me pose la question, est-ce que nos experts sud-africains qui sont au parc de Bangalonzo, avec les mêmes, dans les mêmes conditions, avec le même matériel, avec les mêmes intrants qu'ils ont utilisés, est-ce que chez eux, là, dans une terre désertique, ils les réalisent combien? Ils vont jusqu'à 10 tonnes, 8 tonnes. Pourquoi ici, où le sol semble aussi être bon, on arrive à réaliser les 4 tonnes là, sur le plan économique, c'est vraiment moins rentable. Avoir toute la logistique qu'on a mis à côté pour arriver à produire, réaliser les 4 tonnes là, c'est vraiment un fiasco, c'est une chose qu'il faut revoir. Toutefois, je crois que la dissémination de ces parcs à travers toutes les provinces, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que nous devons faire, c'est inverser la pyramide. Parce que là, ils sont allés au sommet de la pyramide. Mais nous voudrions bien commencer comme un des auditeurs l'a stigmatisé. Il n'y a pas de développement sans recherche. Pas de développement agricole sans recherche agronomique. Si nous commençons par financer d'abord la recherche agronomique localement, commencer à soutenir les petits producteurs parce qu'ils sont nombreux. Les 20 000 hectares là peuvent être réalisés par 2500 et les 5 000 hectares là peuvent être réalisés par 2500 petits fermiers qui sont encadrés avec les moyens de voie et peuvent réaliser cette production. La population congolaise est à près de 70% agricultrice. Je crois que c'est cette façon-là qu'il fallait peut-être raisonner avant d'aller atteindre les parcs agro-industriels, d'autant plus que dans beaucoup de nos provinces, les gens n'ont pas cette culture d'utiliser les tracteurs, les intrants, les pesticides, les moyens sophistiqués qu'on a mis à Bukangalonzo pour une grande production. Mais si nous commençons par ça, et ça va permettre à la population de s'autosuffire. Chacun pourra cultiver ce qui lui est habitué comme aliment de base. Alors, le reste, ça doit servir peut-être à l'industrie agroalimentaire ou les autres industries et aussi à l'exportation parce que.
Voilà, mais Kassongo, nous vous gardons en ligne. On va vous retrouver juste après. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous revenons à vous rapidement. Ingénieur Kassongo, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Alors, il y a un auditeur qui avait évoqué les cas de service national, la réserve stratégique. Est-ce que vous avez commencé par rapport à ça aussi et également le parc qui a été initié par Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga? Alors,
oui. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, je crois que le service national, c'est une expérience qui nous tient toujours à cœur du fait que non seulement nous avons vu l'aspect production du maïs en dehors de cela, il y avait l'aspect formation, l'aspect encadrement civique et patriotique. Donc ça c'est beaucoup d'aspects qui ont fait que les gens étant conscientisés par rapport au développement de leur contrée, de leur pays, ils se sont mis à produire de manière spectaculaire, comme vous le savez. Alors, les parcs agro-industriels, c'est bien. On ne le refuse pas. Pourquoi ne pas d'abord commencer par des structures qui encadrent la population à la base. Lorsque les populations évoluent, on les regroupe dans les coopératives. Et les coopératives reçoivent des subventions. Ils peuvent maintenant évoluer en grands fermiers. De grands fermiers peuvent atteindre les agro-industries pour pouvoir commencer à diversifier, produire les huiles, produire les... Vous savez qu'avec la seule culture du maïs, nous pouvons produire plus de 600 industries ou de 600 petites industries agricoles. Alors, si il arrivait que, par exemple, le pays se concentrait sur d'abord la production des aliments de base, entre autres le maïs et le manioc, à partir de ces deux cultures, nous pouvons voir comment que si nous pouvons commencer à produire de l'huile, du maïs, produire de l'aliment pour bétail, produire les explosifs avec du maïs, produire du papier avec du maïs, produire de la cellulose avec du maïs, produire beaucoup, beaucoup, beaucoup alors d'autres petites choses qui peuvent être utiles à nous qui sommes encore considéré comme pays du tiers-monde.
Merci beaucoup, ingénieur Kassongo, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous allons lire quelques messages. Il y a Luc Moussondoli Mukama de Lubumbashi qui dit ceci, plus de 60% de la population congolaise vit grâce à l'agriculture artisanale. Fort malheureusement, 2% du budget de l'État est affecté à l'agriculture. Un problème se pose, celui de nourrir plus des bouches. Je propose qu'il y ait une réforme dans les domaines agricoles. Cette réforme devra consister à accompagner les agriculteurs pour accroître leur productivité. Un, il faudrait donc segmenter les agriculteurs en groupes agricoles, financer ces groupes, l'octroyer des engrains, les autres produits nécessaires pour une bonne rentabilité. Une implication des scientifiques comme les agronomes, économistes, etc., etc., serait aussi une bonne façon pour assurer la croissance agricole. Il faudra aussi disponibiliser les infrastructures des bases pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Deux, pour ce qui est des grands bailleurs de fonds agricole, l'État congolais devra créer une entreprise ayant des tracteurs à louer, des chauffeurs spécialistes, des mécaniciens bien outillés pour accompagner ces grands agriculteurs à accroître leur rendement. Voilà, Jean de Dieu Milingo, vous êtes avec nous. Professeur Jean de Dieu Milingo, vous êtes avec nous. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de professeur Milingo Jean des Dieux. On va prendre plutôt Joséphine qui est à Boston. Joséphine, bonjour.
Bonjour Radio Capi. Je vais commencer par dire que j'ai vu au village ici aux États-Unis. J'ai vu à l'intérieur des États-Unis, donc au village. J'ai commencé par montrer l'extrait de Bukangalonzo à un fermier qui est mon voisin, sans pour autant dire quelque chose, pas de commentaire. J'ai montré aussi celui de Lubumbashi, du Katanga, le champ du gouverneur, sans pour autant dire quelque chose. Mais à la fin, mon voisin m'a posé la question, qui est l'homme qui a un grand champ au Congo, parce que tu m'as toujours dit qu'il n'y avait pas de champs, il faut aller investir là-bas. Moi, j'ai dit que c'est le gouverneur. Le Bukangalonzo, j'ai dit que c'était le président. Et il me dit, où sont les petits peuples? Tu vois, une question simple. Pourquoi le gouvernement, lui, doit entrer même dans l'agriculture? Ça, c'est grave.
Oui, c'est juste
ici. Nous avons les laissez-moi parler. Nous avons les agriculteurs. La distance de Bukangalonzo à Kinshasa, c'est combien? Je ne connais pas la distance. C'est combien?
Oui, si, mes calculs sont bons. Déjà, quand vous quittez Kinshasa pour atteindre Kenge, vous êtes autour de 350 kilomètres. Et s'il faut ajouter de Kenge à Bukangalonzo, c'est encore 40, je crois. Les calculs, c'est près de 400 kilomètres. En tout cas, si mes calculs sont bons, sous réserve de... Mais c'est pas au-delà des 600. C'est 400 à peu près.
Et l'agriculteur, le fermier qui est, par exemple, le fermier qui est à Kamina, comment il fait? Pourquoi on ne donne pas la chance? Donnez la chance au petit peuple. Quand le président, lui, va prendre Bukangalonzo, il y a le gouverneur. Tout le monde ne sera pas gouverneur pour faire ça. Tout le monde ne sera pas président pour faire ça. Il y a les agriculteurs. Laissez les agriculteurs faire leur travail.
Oui, Madame Joséphine.
Donnez-leur la chance.
Madame Joséphine, juste une précision avant que vous le poursuivez. C'est un projet du gouvernement congolais. Et ça n'a rien à voir avec la personne du chef de l'État. C'est un projet du gouvernement congolais qui veut relancer l'agriculture au pays. Et l'État congolais a signé un partenariat avec des privés, notamment les Sud-Africains et tant d'autres, pour, au fait, commencer quelque part. Je l'ai dit tantôt, c'est un tempo. C'est ainsi que pensent également d'autres observateurs. Donc, c'est un début, c'est tout un processus. Je crois que d'autres partenaires pourraient suivre. Nous attendons, nous observons. Peut-être l'avenir nous donnera raison.
Mais ce que vous venez de dire là, c'est encore plus grave. Vaut mieux même encore le gouvernement congolais. Pourquoi aller en Afrique? Pourquoi aller appeler les Sud-Africains? Nous avons Bengamisa à Kisangani. Nous avons Yangambi. Combien d'agronomes sont sortis de là? Où est-ce qu'ils sont? Donnez-leur la chance. Pourquoi aller en Afrique du Sud, mes chers amis? Pourquoi aller en Afrique du Sud? Le président, la fois passée, quand il était parti au Katanga, il demandait où est-ce qu'il y a combien de riches ici au Katanga. Mais au même moment, vous demandez combien de riches il y a, au même moment, vous-même, le gouvernement, vous faites ce grand projet, au lieu de donner ça au petit peuple. Il y a les agriculteurs, il y a les agronomes. Nous voulons voir les agronomes avec ces projets-là. Vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique du Sud. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, monsieur. Le gouvernement va donner la chance aux agriculteurs. Les autres ont déjà dit, en créant les micro-banques pour qu'ils aillent commencer à prendre là-bas tout ce qu'il faut, les tracteurs. Il faut pas renverser le pyramide. Il faut pas renverser le pyramide. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Jean-Louis, bonjour en fait aux auditeurs de Radio Kapi, et je félicite aussi votre invité. Mais je voudrais dire ceci, et entendre en fait mes prédécesseurs, vous allez comprendre que tout le monde revient sur cet investissement de prestige. En fait, les Congos, notre pays n'a pas besoin des investissements de prestige. Au regard de maigres budgets, des budgets de la honte, comme nous disons souvent, des 3 milliards et demi, et on va investir plus de 100 millions dans un seul projet. Hein? C'est comme quand nous parlons par exemple de l'hôpital du centenaire. Est-ce qu'on avait besoin de construire, d'investir 100 millions de dollars américains dans un seul projet? Hein? On a besoin de désenclaver les pays. Nous avons des agriculteurs partout dans le pays. Vous comprenez que les statistiques disent clairement que le pays a plus de 70% en fait, vivre en fait, de cette agriculture. Nous avions eu la chance, je dois d'abord même corriger ce que vous venez de dire, et Bukangalonzo se trouvait avant même Kenge. Kenge est à 270 km, Bukangalonzo serait environ de 220, parce que je crois que Kenge, après Kenge, Bukangalonzo c'est 30 km, quelque chose de pareil. Alors, on a besoin d'investir de manière rationnelle. Dans les banques d'Ongoula, on avait investi, je crois, plus de 5 millions ou de 10 millions même qu'on avait remis au gouvernement de Bandundu. On avait même créé, je crois, le village agricole entre Massimalemba et Kenge. Aujourd'hui, on n'en parlait pas. Et les députés provinciaux qui avaient en fait demandé, j'avais en fait demandé sur l'enseignant auprès de certains députés provinciaux pour leur poser la question. Mais aujourd'hui, on parle de Bukangalonzo. Mais avant Bukangalonzo, on avait investi des millions pour un village agricole. On avait vu la propagande qu'on entoure toujours derrière de ce projet. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait rien de cet investissement. On nous dirait que rien n'a été fait. Le gouverneur s'était quand même arrangé. Lui, il montre à la télévision les champs de privés. Et vous comprenez que pourquoi on peut gérer le pays de cette manière, de cette politique, de cette ivresse
agricole. Maurice, je crois que si je ferme les yeux, vous pouvez quand même m'accorder ces bénéfices. C'est-à-dire de penser déjà, de ne pas avoir quand même le sentiment d'être en face quand même d'une opposition par rapport à tout ce qui s'est fait. Parce que finalement, vous êtes pessimiste, vous ne pensez pas. Nous l'avons dit, que c'est un tempo, le gouvernement a donné le temps, c'est tout un processus et ça va se suivre, Maurice.
Non, je ne suis pas contre, je ne fais même pas de l'opposition, mais je ne suis pas contre.
Merci beaucoup Maurice, merci beaucoup Maurice d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous vous proposons chaque jour qui passe des sujets pour débattre au cours de cette émission Parole aux auditeurs. Vous avez droit à la cité, donc nous disons également merci à notre invité qui malheureusement en dernière minute le problème de réseau s'est posé. On n'a pas pu récupérer en ligne pour lui donner les derniers mots. Voilà, à vous tous qui avez suivi avec attention, soutenu cette émission, nous vous disons merci. Merci également à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda, un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain.